Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant.
Sans oublier.
Tom.
Voilà, il a enlevé son casque aujourd'hui. C'est vrai que la semaine où il y a 15 jours.
Là, c'est son bonnet qu'il n'enlève pas.
Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un picard.
Là, c'est un picard, c'est ce que j'allais dire. Et vous savez qu'ils sont sous les eaux en ce moment. Est-ce que vous êtes sous
non,
les eaux?
Non, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est pas dans la Picardie.
Ça n'a rien à voir, là, ça n'a rien à voir. C'est.
Encore plus loin.
C'est entre. Vous voyez le département du Nord? Bah, c'est juste en dessous.
Non, je vois rien.
Ça, je vous dis,
je ne vois rien. Le plus loin que j'ai été, pour le moment, c'est
nord,
la Picardie.
C'est pas compliqué, c'est
pour
en
moi,
haut.
Le Nord, c'est la Picardie, c'est haut, et puis c'est tout. Ça s'arrête sur le chemin des Dames, et puis voilà.
Oui. Ah, c'est un peu plus sonore, là, là. Bon, bref, vous écoutez les Grignoux tous les mercredis de 20h à 21h30.
Tant que l'antenne tient. Tant que l'antenne tient, vous l'avez entendu.
Bah justement, je voulais en parler, mais bon, je peux faire ma petite annonce quand même.
Ouais, allez-y.
C'est qu'après,
allez-y.
J'ai pas à dire un mot, à part au revoir.
Je vous fais confiance.
Donc, alors, j'étais parti, voilà, les Grignoux tous les mercredis de 20h à 21h30, rediffusé le dimanche à partir de 15h, donc ça nous fait du 16h30, et réécoutable. Il suffit de taper les Grignoux sans X, sans S, et vous tomberez sur le blog. Vous pouvez passer aussi par le site de Canal B. Allez, un petit disque.
Un jour, un coup de fusil, ça se terminera à coup de fusil, cette histoire-là.
Mais c'est mon truc. Oh, tu sais, je peux le faire une fois de temps en temps.
While you are eating. take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating.
Eh bien voilà, une émission bourrée qui a failli être bourrée pour rien, parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer. La tempête, comment qu'elle s'appelait celle-là? Ennio Morricone, laquelle quoi?
Oh, je sais plus, il y en a eu deux.
Pardon?
Kieran.
Hein? Kieran, ouais, la putain de tempête à la con, là, qui a pété mon toit dans le Trégor.
Ouais,
voilà.
Et ben, ouais. Il semblerait, c'est assez curieux, que, alors nous, en ce qui nous concerne, l'antenne n'a pas été pétée par la grosse tempête, mais par un contre-vent ou une contre-tempête.
Ouais, ça arrive,
et là, on a l'espèce de, on a l'antenne qui pend un peu comme une caquette de notaire, vous disiez tout à l'heure.
Non, c'est faux que vous disiez. Mais, tout ça pour dire, en fait, que l'antenne émettrice de Canal B est cassé.
Voilà, on a mi-cassé.
Bah oui, parce qu'on a vu les photos d'urgence, ils ont mis du scotch ou un truc comme
ils
ça.
Ils ont rien mis, les pauvres.
Autour.
Parce que comme on est sur un château d'eau, faut quand même le savoir, ça se répare pas comme ça, parce qu'à cause des barbus, Lulu, et pas que des barbus, mais les châteaux d'eau sont des sites hautement protégés. Imaginez que, bah, par exemple...
On va mettre une bombe.
Non, vous rappelez pas comment c'était dans les années 60, lorsqu'un un chimiste de renom avait inventé le LSD et menacé de mettre du LSD dans les châteaux d'eau à Los Angeles ou San Francisco, je ne sais plus.
Oui, je crois que ça dit quelque chose.
Ah, ouais. Et c'est très, très dangereux, un château d'eau aussi. On ne grimpe pas sur un château d'eau comme on veut. Pour le moment, ça marche. On va dire que ça marche.
FM.
Mais il faut, on est encore sur la bande FM, mais il faut quand même le dire qu'il se pourrait que ça ne marche plus.
Mais
dans ce cas-là, on sera quand même toujours sur Internet.
Alors justement, je voulais demander à Tom, en fait. Oui. Alors c'est le DAB, hein, je dis pas de bêtises.
Oui.
C'est quoi ça, en fait?
Mais c'est la radio numérique terrestre.
C'est-à-dire?
Eh bien, en fait, plutôt que ça passe par la FM, ça passe par d'autres canaux.
Ouais.
Mais il vous faut un poste particulier. Vous pouvez pas utiliser votre poste que vous êtes dans votre voiture.
C'est-à-dire que mon poste, qui est super neuf, il y a une petite dizaine d'années.
Une vingtaine d'années, vous le jetez.
Vous
changez de voiture.
Donc, ça marche pas.
Oui, non.
Et donc, le seul moyen d'écouter Canal B en direct,
c'est sur Internet.
C'est via Internet.
Ouais.
Alors, pas forcément en direct. On conservera, je pense, qu'on va conserver la même formule. Espérons que ce souci ne dure pas trop longtemps, on verra bien. On verra bien.
Ouais, parce que
tout cas, n'oubliez que c'est ce que je tenais à dire quand même, c'est que la radio n'est pas morte pour autant, et que même si on ne devait plus être sur la bande FM du fait de la triste mine qu'arbore notre antenne aujourd'hui, eh bien, nous continuerons, les émissions continueront sur Canal B.
Moi, ce qui m'embête, hein, je vous le dis sincèrement, parce que j'ai découvert ça hier soir, etc., mais c'est bizarre, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Moi, évidemment, je suis général militaire, là, désolé, je suis né au XXe siècle, c'est comme si on faisait un podcast quelque part.
Mais non, c'est-à-dire que si vous êtes sur Internet, par exemple, sur votre ordi, et que vous travaillez, eh ben, vous écoutez Canal B en bruit de fond, ça continue à émettre comme avant, il n'y a aucun souci, c'est du direct, pareil, mais pour interagir, il faut que ou vous achetiez un nouveau poste, et moi, effectivement, je ne vous conseille pas d'en acheter un maintenant, attendez que les Chinois en fabriquent dans leur goulag, hein, que ça sera moins cher, et pour le moment, on peut espérer qu'effectivement, alors il n'y a pas que nous, hein, qui allons être impactés, parce qu'il y a Radio Rennes, j'ai cru comprendre...
Les petites radios associatives, pour simplifier.
C'est deux radios de Rennes, qui sont quand même, Radio Rennes est même plus vieille, je me demande.
Canal B, ouais.
Que Canal B, donc quand même deux vieilles radios emblématiques. N'oubliez pas, en tout cas, si on devait nous couper le sifflet, on sera encore sur Internet, et pas que les Grignoux, toutes les émissions de Canal B, bien sûr.
Il faut que je digère l'info.
Ah bah ouais.
Bon.
Mais
oui,
justement, profitons que notre antenne, toute mutilée qu'elle soit, marche encore pour être encore sur la bande FM et annoncer que ce soir, nous recevons Véronique. Véronique est graphothérapeute. Alors c'est un peu votre sujet, vous, Jean-Loup.
Bah oui,
vous l'avez un peu harcelé. J'ai dû un peu sauver l'affaire.
Ça va.
Vous l'avez un peu harcelé. Elle m'a appelé en pleurs un jour. Elle m'a dit... Mais c'est qui, monsieur Canal B, je ne connais pas. Il veut que j'aille à la radio à mercredi. Effectivement, ça tournait un peu en eau de boudin. J'ai calmé l'affaire.
Tout ce qui se passe avant la radio ne regarde personne.
Oui, c'est bien, mais bon, j'explique bref, quand même.
C'est vrai que...
Non, parce que les gens, après, ils vont se dire, Roger, il ne fout rien.
Et c'est vrai, moi, dès que j'ai su qu'elle était graphothérapeute, je ne connaissais pas. Et honnêtement, je me suis dit, c'est quoi ça, graphothérapeute? Et puis, il m'a essayé vainement de m'expliquer, et je n'ai pas tout compris. Et je me suis dit, le plus simple,
mais ce serait... Mais c'est pas
grave. Bah oui, ce serait de l'inviter à l'émission, en fait, bien, pour en savoir un petit peu plus.
Et c'est là où ça a viré au harcèlement, en fait.
Oh, mais vous savez, moi, comme confie une mission, j'ai dit, je l'aurais. Elle m'a jamais dit non. Donc, je pourrais l'avoir. Mais bon, êtes-vous le commerçant voleur ou le...
Oui, un commerçant, commerçant tout court. Ouais, d'abord, et
voleur, quoi.
Et deux, heureusement qu'il faut mettre les formes, mon bon Jean-Loup, et rappeler à Véronique, comme à tous les éventuels nouveaux invités de l'émission des Grignoux, que vous ne risquez rien. Nous n'avons jamais eu aucune plainte en ce qui concerne l'intégrité physique de nos invités. Les plaintes rapport à ce qu'ils ont dit,
ouais, oui. On en avait eu deux ou trois.
Hein, on a eu deux ou trois, certes.
On l'avait eu même
pour... aucune invitée n'a pu se plaindre de la moindre agression physique. Ouais. Il faut le dire.
Et on l'a vu, je me souviens, une fois...
Et il y a des émissions. Vous seriez passé chez PPDA. Eh ben, chez PPDA, il faut passer à la casserole, mon petit gars.
Non, c'est bon.
Je dis, il vaut mieux passer chez les Grignoux. Donc, Véronique est graphothérapeute, et ça va nous permettre d'en savoir plus, parce que moi, je suis comme vous, Jean-Loup, j'en savais pas plus du tout. Et je trouve ça très, très intéressant, parce que pour moi, il y avait, pour tous ces problèmes qui étaient liés à l'expression,
à l'écriture,
etc.,
surtout.
Il y avait ce qu'on appelle les orthophonistes, et qu'on appelle toujours d'ailleurs les orthophonistes. Et en fait, il y a plein de champs tout autour de toute cette problématique-là, dont nous n'avions pas conscience, et c'est très bien, mon Jean-Loup, même si effectivement, vous avez fait un petit peu peur à notre invité, mais je crois que tout ça, c'est du passé.
Bon, oui, c'est du... On va se mettre un petit disque, et après, ce sera votre rubrique. Ah là, il m'énerve.
Ah, puis je suis chaud.
Tinder's gonna miss her regular crib. I need some. c'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger!
Eh bien voilà, alors que Jean-Loup se plaint qu'il ait les mains qui collent, je ne veux absolument pas savoir pourquoi il a les mains qui collent. Le Sénat, oui. Peut-être qu'aussi on y a les mains qui collent. En tout cas, moi du Sénat, j'avais une image catastrophique. Je vous parle même pas de la loi anti-immigration sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qu'ils ont voté tous d'un seul élan. Sauf quand même les sénateurs de gauche et apparentés. Sauf qu'au Sénat, voilà que j'aime pas moi de comment tomber, vous savez, sur taper sur une ambulance. Mais alors, le sénateur Guerriau, il est quand même un petit peu stupéfiant.
Mister Défonce, là.
Alors, le sénateur Guerriau.
Il a plus sa tête.
Alors, je résume l'affaire. Là, pouf, là qui tombe, parce que il est soupçonné. Alors, il a la présomption d'innocence, etc. Sur Canal B, on respecte, naturellement. Il est soupçonné d'avoir empoisonné une collègue. Alors lui, il est...
Pas empoisonné, drogué.
Drogué, enfin c'est un peu empoisonné, c'est pareil. Pour moi, c'est quand même du poison.
On va pas philosopher là-dessus.
Une collègue. Alors lui, il est apparenté Horizon, ça c'est Édouard Philippe. Et la députée, la victime qui porte plainte, elle est Modem. Donc parti allié, centre machin, centre droit. Et en fait, le papy Guerriau qui la connaît depuis longtemps, l'invite à boire un coup et tout, pommier en champagne, voilà, machin. Et puis elle se sent mal, elle file, le chauffeur de taxi voit qu'effectivement elle demande à partir, ils appellent le Guerriau, n'insiste pas, il la laisse filer, elle prend un taxi, le chauffeur de taxi voit qu'effectivement cette dame n'est pas bien du tout, il laisse même son numéro de téléphone et son contact, il dit si vous voulez un témoignage, je pourrais témoigner comme quoi effectivement vous êtes là pas bien. Elle avait demandé à être déposée à l'Assemblée nationale où l'attendait un collègue, plusieurs collègues l'ont pris en charge, et il s'avère qu'effectivement, d'après les analyses, et elle a eu une présence d'esprit assez rare pour les victimes, c'est qu'elle a demandé à aller à l'hôpital très vite et on a pu faire une analyse très vite parce que ce genre de produit...
Ça se dissout vite.
Drogue du violeur et compagnie, ouais. Ça se dissout très très vite. Et heureusement qu'elle a eu cette présence d'esprit, ce qui a permis effectivement de foutre son empoisonnier dans la mouise. Et on croyait qu'effectivement... Alors pour sa défense, le sénateur Guerriau, qu'est-ce qu'il a dit?
Écoutez,
il était déprimé. Un pote qui avait eu le cancer et surtout son chat Pépère.
On s'y attache à ces petites bêtes-là.
Et assez cocasse quand même, il a réussi à obtenir ce qu'il appelle de l'ecstasy auprès d'un collègue sénateur.
Dont il ne dira pas le nom.
Dont il refuse de dire le nom.
C'est normal.
J'aimerais bien savoir comment la police nationale se comporte quand Mourad refuse de dire le nom du mec qui lui a vendu son ecstasy.
C'est un élu corse, vous rien savoir.
Donc voilà, il ne veut pas dire le nom, et ce monsieur-là n'est pas vraiment... Alors c'est assez amusant, il y a plein de choses qui sont amusantes autour de ce monsieur-là, c'est que déjà, d'une part, il a fait partie d'une commission pour l'éradication des drogues au sein du Sénat, ce qui manque pas d'être cocasse, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il s'est renseigné sur l'efficacité des produits,
et comment en avoir pas cher.
Moi, je serais flic, je redemanderais avoir le nom de tous les sénateurs qui ont fait partie de cette commission antidope. À mon avis, on a tous les dealers du Sénat dans la liste. Moi, je dis ça, je dis rien.
Ouais, je pense qu'on aurait même gauche-droite, on aurait des sacrées surprises.
On aurait sûrement des surprises. Oui. Et donc, comment il y a ça? Et autre chose qui est assez amusante, il y a 2 ans, il s'était fait avoir parce que sur son compte Twitter, qu'on n'appelait pas encore X à l'époque, il y avait une photo d'un sgeg. Vous savez, on appelle ça des dick pics. Vous vous rappelez, je vous avais appris ce que c'était que ça, lorsque le successeur d'Édouard Philippe à la mairie du Havre était tombé pour avoir harcelé plusieurs de ses collaboratrices en envoyant la photo de ses parties génitales. Voilà, un dick pics. Et le père Guerriau avait d'abord accusé...
C'est beaucoup plus ça.
Le père Guerriau avait d'abord accusé... le sénateur Guerriau avait d'abord accusé on avait dit, on a piraté mon compte, devant la possibilité de le prouver, il avait dit, ok, c'est une connerie d'un de mes collaborateurs, et il avait géré ça en interne. C'était c'est amusant. Oh, j'aime pas quand vous mettez votre pomponnette sur c'est le micro, ça m'excite à moitié, Tom. Et donc, le père Guerriau, apparemment, c'est quelqu'un d'un petit peu chaud, et il ne semble pas être le seul au Sénat. Et c'est, moi, c'est un peu le Sénat que je préfère, parce que le Sénat que je n'aime pas, c'est le Sénat à propos de la loi immigration, bah, qui a durci le texte, qui a, mais attention, toutes les modifications n'ont pas été votées que par la droite, elles ont été votées également par tout le groupe Renaissance, en tête duquel on trouve monsieur Patria, ancien sénateur socialiste. Ce n'est pas le vent qui tourne, ce sont les girouettes, je ne sais plus qui disait ça. Et ce monsieur-là a donc signé, comment dirais-je, un projet de loi, a voté pour un projet de loi qui est largement inspiré des thèses du Front National, je résume, comme en renoncement au droit du sol et suppression de la CMA. CMA, c'est l'aide médicale d'urgence pour les personnes immigrées. Il faut déjà pouvoir témoigner, enfin justifier de 3 mois de présence sur le territoire pour y avoir droit. Et tout le monde sait que cela ne représente qu'une infime partie des immigrés parce que c'est tellement illégaux, parce que c'est tellement compliqué de l'avoir, bref, ça ne coûte que dalle. Mais on a quand même voté ça, ce qui vaut à quand même 2 députés sénateurs de droite d'avoir une plainte. Ils sont visés par des collègues médecins qui ont porté plainte contre ces 2 sénateurs de droite qui sont aussi médecins au nom du renoncement au serment d'Hippocrate. Et ben ouais, parce que le serment d'Hippocrate, on jure qu'on doit soigner n'importe qui, quelle que soit sa race, sa religion.
On jure.
Ou ses revenus. Et c'est un petit peu en contradiction avec cette loi immigration. Et tout ça est bien dégueulasse. Et quand on voit le gros Larcher, là, le président du Sénat à vie, devant une poularde confite, du pâté de gras, du saumon en gelée, il y a quelque chose de pourri dans le royaume qui me donne envie de vomir. On va continuer, tiens, puisqu'on est
vous parlez de
choses qu'ils ont envie de vomir. C'est à propos de l'ISF. Vous vous rappelez que la promesse du président Macron était
le dégoulinement.
Voilà, le dégoulinement, la descendance et tout ça, la ruisellerie, toutes ces choses-là.
En fait.
Et il avait dit il y aura une commission qui va se pencher, qui va étudier les effets donc de la suppression de l'ISF. Et le comité chargé d'évaluer les réformes de la fiscalité du capital d'Emmanuel Macron vient de rendre son appel final, verdict. Aucun effet sur l'économie, mais une hausse significative des inégalités. Merci Macron. Un petit X ?
Oui. Ah, vous l'aimez pas, vous, hein, Macron ? Allez, un petit disque.
You know, my mama told me, papa told me too. You don't know what she's up to. Well, it's a dead cat. Dead cat. Come home at night, talking out of your head. You go to bed. Well, it's a dead cat. Dead cat. Well, all through the week you're as quiet as a mouse. Saturday night you go from house to house. I ain't lying, you're the cheating kind. And there's a dead cat on the line. You know you Detroit women walking hand in hand, all run around with one another's man. Well, it's a dead cat. Hippies meet, well, it's a dead cat. Dead cat. Well, all through the week, you're as quiet as a mouse. Saturday night, you go from house to house. I ain't lying, you're the cheating kind. And there's a dead cat on the line. We'll be right back.
Après
Roger,
cet excellent allez, morceau de Hillbilly Moon Explosion, Dead Cats Boogie.
C'est votre choix, hein, ça.
Ouais. Mmh. Ah, j'aime bien ce groupe. Tiens, allez, je voudrais revenir quand même sur un truc qui m'a bien saoulé. C'était la manifestation contre l'antisémitisme initiée par les deux présidents des deux chambres, à savoir Yael Braun-Pivet et notre ami, le président à vie du Sénat, Gérard Larcher. L'idée, on en avait déjà parlé la semaine dernière,
enfin,
on avait souligné qu'effectivement, il eût été mieux que, au lieu que cette marche-là se limite à l'antisémitisme, elle soit ouverte à toutes les formes de racisme, de ségrégation, et pourquoi pas l'homophobie aussi, et ça aurait pu être beaucoup plus consensuel, et ça n'aurait pas effectivement foutu le bordel que ça a foutu, et même le président Macron n'a pas pu manifester. Pourquoi ? Parce que, en tant que président de la République, manifester juste que contre l'antisémitisme, c'était quelque part prendre position, et il ne pouvait pas le faire. Ce qui a permis justement, à pas mal de gens comme Ciotti, d'ironiser sur l'absence du président Macron, qui de toute façon, sur ce genre de démarche, ne pouvait pas le faire. Et surtout, ce qui me saoule dans cette histoire-là, c'est la présentation de Marine Le Pen en héroïne de la lutte contre l'antisémitisme. Bah. C'est le raccourci qui est fait par les chaînes d'information en continu. On va citer CNews, par exemple. J'ai lu un excellent article dans le Télérama où il raconte comment, effectivement, maintenant, sur CNews, on le tutoie. Comment il s'appelle ? Ah, Gargamel ! Zemmour. Ouais, j'appelle Gargamel. Bon, il ressemble à Gargamel un peu.
Vous l'aimez pas Zemmour. Non plus, hein, Zemmour.
Ah, j'aime pas trop Zemmour non plus. Et il le tutoie. Alors, Eric, c'est comment la manif contre l'antisémitisme ? Et c'est quand même assez dément. Plus rien ne veut rien dire. Quand on sait qu'à cette même manifestation ont participé un monsieur du nom de Philippe Vardon, qui appartient maintenant au parti de... Il est Front National, maintenant il est Reconquête. Et il a un groupe de rock identitaire qui s'appelle... Fraction, hein, on imagine qu'effectivement ça peut pas être autre chose que Fraction, et parmi leurs tubes, ils avaient une chanson à la gloire du Zyklon B. Voilà. C'est ce genre de personnages qui vont manifester contre l'antisémitisme, ce qui motive un petit peu l'initiative de Golem. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un golem ?
Allez-y.
Non, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un golem dans l'histoire ?
Oui, c'est une marque de cigarette.
Ah non, Dieu. Le golem est une création dans la culture juive d'Europe de l'Est, et notamment en Tchécoslovaquie.
Vous êtes pointu, là, quand même.
Et le golem est une créature faite de terre et de glaise que seuls quelques rabbins pouvaient animer et qui avait pour fonction de défendre le peuple juif qui, comme vous ne l'ignorez pas, a quand même été victime de maint et moult pogroms, et les nazis ne sont pas les premiers à avoir fait dans l'antisémitisme de base.
URSS, c'est pas mal.
Ce collectif Golem, et c'est amusant, hein, j'ai appris d'ailleurs avec un dessinateur de comics que le Golem, cette créature du Golem, c'est lui qui a initié la chose. Vous savez, celui qu'on a dans les Quatre Fantastiques, l'espèce de grosse bestiole toute carrée, toute en terre, hyper balèze.
Ah, je vois, c'est vieux ça.
La chose des quatre fantastiques, parce que le créateur des quatre fantastiques, il est juif, bon monsieur. Et donc,
j'y suis pour rien, là.
Le golem, c'est un nouveau collectif antiraciste qui regroupe les juifs et les juives de gauche. Ce groupe s'est constitué pour tenter de bloquer la présence des antisémites, du RN, parti co-créé par un ancien FNSS, il faut le rappeler quand même, et de Reconquête à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre à Paris. Des militants d'extrême droite ont tenté d'arracher la banderole du collectif golem. Quelques heures ont éclaté et les forces de l'ordre sont intervenues pour séparer les deux groupes. Les membres de Golem ont ensuite été nassés en marge du cortège pour enfin être libérés et continuer de manifester en revendiquant leur opposition à l'extrême droite. Il serait quand même dommage, effectivement, que l'extrême droite ne puisse pas manifester contre l'antisémitisme. Quand je vois ça, je me dis que nous sommes... vous savez, ça me fait penser à ce prophétique bouquin 1984, où on a le dictateur qui dit la liberté, c'est la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, etc. Et l'extrême droite peut tout à fait légitimement manifester contre l'antisémitisme quand on sait qu'ils n'ont, un, ils n'en ont rien à en brûler. Je reprends Philippe Vardon, là, mon chanteur du groupe identitaire qui chante des chansons à la gloire du Zyklon B et qui n'hésite pas à manifester, qui est filmé par BFM TV. Et qui montre effectivement, oh, c'est pas bien de la part de l'extrême gauche d'avoir pas manifesté avec l'extrême droite contre l'antisémitisme.
Mais je voulais juste rajouter quelque chose. Juste la première partie de ce que vous avez dit, la deuxième partie, alors ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est sa rubrique, c'est la justice sur le coin du nez. Mais s'il n'y a pas eu de manif antiraciste, il ne faut pas oublier que suite au 7 octobre, et ça c'est un truc que je ne comprends pas, ou qui, je ne sais pas, où j'étais élevé différemment, quoi. Les juifs, on l'a pris un peu pris plein la gueule.
Ah ben, tout le monde n'a pas porté plainte. Ça n'arrête pas, mon pauvre chat.
Ça peut être de
et
ça, juif.
Golem est un...
Je veux juste terminer ma phrase. Et c'était une manif qui était particulière à la situation vis-à-vis des juifs. Et c'est pour ça qu'on a du mal... première partie, hein, attention. On a du mal, en fait, à intégrer contre le racisme. Les musulmans n'ont pas été embêtés.
Ouais, mais l'antisémitisme, etc. c'est du racisme.
Alors, deuxième chose aussi que je ne comprends pas, c'est l'antisémitisme. Pour ça, je voulais dire, j'étais élevé d'une manière différente, ou je sais pas, où on était dans un moule, comment ça peut encore exister ? Alors, on peut parler de l'extrême droite, mais bon, une partie, attention, je dis bien une partie des musulmans n'aiment pas trop non plus les juifs.
Alors après, mais il y a d'autres phénomènes qui se sont agglomérés avec la création d'Israël en 48. On a malheureusement, encore une fois, pas le temps d'en parler. Par contre, moi, je suis très content de la création de ce collectif Golem, donc ce collectif de gauche qui rappelle qu'on peut être juif de gauche, parce qu'on a, c'est pas trop l'impression que ça donne en Israël aujourd'hui avec des représentants des ministres qui disent qu'il faut envoyer la bombe atomique sur Gaza. C'est très très bien. Longue vie au golem, défenseur d'une certaine identité juive.
Vous finirez comme injuste. C'est moi qui vous le
dis,
Roger.
J'en sais rien.
Allez, on s'écoute un petit disque.
Thank you.
5 minutes.
Alors, juste pour rappeler, moi, tiens, c'est un hommage que je voudrais rendre à monsieur Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, qu'on a fait chier, qu'on n'arrête pas de faire chier pour une blague. Vous vous rappelez de cette blague-là? Oui, c'était avant Halloween, comme un costume qui fait peur. C'est Netanyahou, c'est une sorte de nazi sans prépuce, c'est ça. Hein. Et ça lui a valu l'ire et la contre-ire de tout ce que les éditos de droite peuvent vomir sur sur pas mal de chaînes d'infos en continu. Et ça va loin quand même, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, Guillaume Meurice était entendu par la police judiciaire. Mais on va où? Vous rappelez, c'est l'histoire d'un mec, il est ni juif ni arabe. Déjà, pouf. Ça, c'était Coluche dans les années 80, il pouvait le dire, pas de procès, que dalle. Et ça passait. Aujourd'hui, arrivé en 2023, une époque où on se veut encore plus tolérant, eh bien, le père Meurice, pour une blague qui pour moi a été élevée à la sauce harakiri à partir de l'âge de 11 ans, je peux vous dire que ça, moi, un, ça m'a fait rire.
J'ai pas trouvé ça profondément insultant, moi, personnellement.
J'ai pas trouvé ça insultant.
C'est l'extrême droite, là.
Ouais, ouais. Et puis, Netanyahou, je suis désolé, moi, je lui donnerais pas mes enfants à garder, quoi.
Ah, bah, il y aurait des rigueurs. Rigueur et prière.
Attendez, c'est attendu. C'est quand même un peu lui. D'ailleurs, sa tête va tomber parce que ce qu'il y a de bien aussi en Israël, c'est qu'on n'est pas en France, hein, où on étouffe les affaires des politiques à force de grands cours de la République.
C'est une démocratie.
Machin. Enfin, une démocratie pour les juifs, pas pour les autres. Mais bon.
75%, j'ai regardé 75%.
Ouais, ouais, mais il faut voir comment le vote des Arabes est représenté. Enfin, c'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, la vanne de Guillaume Meurice ne méritait pas, largement pas, lire que lui vaut. Une convocation à la PJ, parce que là, on est quand même un petit peu en train de se demander si finalement, ben vous voyez, on est là. Oh, Marine Le Pen, mais non, mais elle est là, finalement, elle est déjà là, puisqu'on peut convoquer un humoriste pour une blague que certains ont pu trouver lourde.
Il nous reste, désolé Roger, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que en Argentine, alors tout ce que je savais de l'Argentine, bon, ils ont eu quelques nazis. Bon, c'est vrai, les prescriptions.
Ils ont planqué un peu le nazi.
Ah, oh, ben les prescriptions. Ils ont été champions du monde de football. Et ouais, les derniers champions, ce sont des Argentins. C'est la misère de la mort là-bas, malheureusement. Et là, il y a un type qui a été élu Premier ministre là-bas. Je ne sais plus comment
non,
il s'appelle.
Non, président.
Je crois que c'est plutôt un truc...
Non, c'est président.
Non, parce qu'il y a une histoire qu'il n'a pas la majorité.
Oui, mais justement, il a été élu président, mais il n'a pas la Chambre des députés. Son parti représente 10%.
Tom va regarder si c'est régime présidentiel ou parlementaire. On parlait de l'Argentine.
Oui.
Bon, bref, c'est pas grave. Mais je n'avais pas vraiment suivi ça ou d'extrêmement loin. Mais quand j'ai vu le gagnant, on est dans le délire complet. Et le mec avec sa tronçonneuse, je coupe tout. Les subventions à la culture, les hôpitaux privés, l'éducation payante.
Il n'a pas la majorité, son parti.
J'ai l'info.
Vous avez l'info, c'est...
Alors, c'est une république présidentielle multipartite où le président est à la fois chef de l'État et du gouvernement.
Donc, voilà.
Pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement.
Comme chez nous. Je vous ai dit. Voilà.
Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est le personnage qui est cinglé, enfin moi, vu de l'extérieur, hein, de l'autre bout de la planète, mais d'un autre côté, quand on sait ce que vivent les Brésiliens, nous, avec 10-15% d'inflation, tout le monde va mourir, et eux, c'est 146% en un an. Et les aides sociales, c'est peu coupé les aides sociales, mais je pense pas qu'elles soient
lourdes. Les aides sociales, comment aident à éviter de mourir de faim, 40% de la population argentine, mais là où on ne comprend plus, c'est que nombre des bénéficiaires des aides qui sont menacés justement par ce président-là,
sur laquelle ils sont assis.
Ouais, ont voté pour lui, alors il faudra quand même qu'on m'explique.
Alors moi j'ai une explication, c'est moi qui le dis. Est-ce que c'est pas le désespoir et la misère qui poussent les gens vers les populistes?
Si tu sais lire, tu votes pas pour un parti qui dit je vais supprimer les aides sociales quand tu vis des aides sociales.
J'essaye d'expliquer, je revendique rien.
Non, je sais bien. Mais voyez ce que je veux dire. Les Argentins sont pas demeurés.
Mais non, mais attends, je peux finir ma phrase. Après, vous pourrez nuancer sans problème. Mais j'ai dit pendant 10 ans qu'on les a un coup à gauche, ça va pas mieux. Un coup à droite, ça va pas mieux. Un coup à gauche, ça va pas mieux. Au bout d'un moment, pourquoi pas, on peut en revenir quelque part à Marine Le Pen. Une espèce de vote de mécontentement, mais ils élisent, malheureusement, je ne suis pas sûr, quelqu'un qui leur fasse autant de bien. Vous savez ce
que
c'est.
Alors après, il faut peut-être se dire quelle gauche, quelle droite ils ont eu, voilà. S'ils ont une gauche molle Hollande, il ne faut pas s'étonner après si on a une droite Macron.
Bah regardez, gauche-droite, ça fait depuis 80 que ça alterne, on va dire. Bon, si, on est en France, heureusement, mais on n'a pas une révolution, il y a toujours des inégalités sociales, etc., etc. Mais en France, au moins, on a un putain de filet de sécurité qui évite que les gens finissent réellement à la rue, même si ça existe, malheureusement. Chacun son truc. Moi, je suis parti dans d'autres milieux. Il nous reste une minute.
C'est une victoire. Tiens, Darmanin qui voulait supprimer les soulèvements de la terre, il l'a dans le cululu parce que le Conseil d'État a jugé qu'effectivement, en rien, les soulèvements de la terre menaçaient la République et pouvaient être assimilés à un mouvement terroriste. Tant pis pour toi, Darmanin, tu l'as dans le cululu. Voilà.
Allez, on se met un petit disque et après, on attaque.
Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut le dire quand même.
On va parler de graphothérapie. Ça va vous détendre. Parce que là, je vous vois prendre vos crayons et rageusement.
Je fais le ménage.
C'est pas de la rature, ça. Je sais pas ce que dirait un psychologue, mais il gratte pas. Il enfonce son crayon dans le papier.
Ça s'appelle le ménage.
Bon, bref, j'ai failli dire une grosse connerie, je dirais pas. Allez, un disque.
To me anymore, to me anymore, to me anymore, to me anymore.
Baby, you're driving me crazy. De dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans... Et du con.
Ça ne s'adresse pas à vous, Véronique, qui avez énormément de chance ce soir, puisque l'antenne n'est pas tout à fait cassée. Et je laisse la main à Jean-Loup, parce que c'était quand même son invité, qu'il a un petit peu harcelé. Ça a failli mal tourner. Sa famille était terminée au commissariat, cette affaire-là, mais tout s'est bien fini.
Non, mais c'est vrai, il y a quelques mois, alors que j'assistais à une exposition de peinture, vous savez, j'arrive à la dernière minute, quand les verres sont gratuits, je tombe sur Véronique, qui me dit, en discutant, qu'elle est graphothérapeute. Et la question, je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent, mais c'est quoi graphothérapeute ? Je sais, vous essayez de me l'expliquer en quelques mots. Alors moi, gentiment, je vous ai fait oui, pour faire semblant que j'avais compris. Et je n'ai pas tout compris. C'est un peu pour ça qu'on vous invite ce soir. Et je vais peut-être... Alors déjà, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir.
Bonsoir.
C'est vrai, je vais peut-être commencer par le commencement. Et je vais vous poser une question assez fine.
Pourquoi vous le précisez ?
Parce que c'est pas évident d'y répondre. Grosso modo, c'est quoi la graphothérapie ?
Alors, graphothérapie, thérapie.
Je vous expliquerai après.
Alors, vous êtes graphothérapeute, c'est quoi une graphothérapeute ?
Alors, une graphothérapeute, le cœur de son métier, c'est l'écriture manuscrite et le geste d'écriture. Donc, dans graphothérapie, on a à la fois grapho, donc le graphisme, et la thérapie, effectivement, qui s'apparente un petit peu aux soins.
Alors, c'est quelque chose, c'est une discipline. J'ai plusieurs fiches. J'ai une fiche Wikipédia, j'ai une fiche doc. Alors j'ai pas pris la fiche Doctissimo parce qu'il faut l'accepter les cookies, ça me saoule. Donc j'ai pris d'autres sources. Mais en tout cas, d'après Wikipédia, c'est né dans les années 60, à travers le docteur G. Ajuria et le René Olivo ou Raymond Olivo.
Oui, tout à fait. Ajuria Guerra et Olivo qui ont fait des effectivement, qui ont publié d'ailleurs des choses très intéressantes, qui ont commencé à étudier sur des centaines d'enfants l'écriture manuscrite et qui ont donc élaboré un certain nombre de tests d'ailleurs qui permet de classifier entre guillemets les enfants dans certaines catégories voilà, de scripteurs.
Ils ont donc découvert, en fait, ils ont travaillé sur le fait que tout le monde n'a pas la capacité d'écrire. C'est pour remédier à cette incapacité ou alors à cette graphie mal contrôlée que ces deux scientifiques ont travaillé, c'est ça ?
Oui, l'objectif c'était de dire qu'à un certain âge ou dans une certaine classe, on devait atteindre effectivement un certain nombre de, on va dire,
capacités
au niveau motrice, et que si jamais on les atteignait pas, effectivement, il y avait peut-être besoin d'une rééducation à ce moment-là.
Avant, il n'y avait pas. C'était, moi, je me rappelle, par exemple, on utilisait la plume sergent-major.
Ouais,
et j'avais un bon pote gaucher, et on avait des putains de blues à l'époque.
Ouais.
Et le pauvre malheureux, au fur et à mesure qu'il écrivait sa putain de blues, écrabouillait tout ce qu'il écrivait, l'instit arrivait, blau, blau. C'est Pinocque volé, hein, je me rappelle. C'était le cauchemar, quoi.
Ouais, alors forcément pour les gauchers, hein, c'est quelque chose qui peut être problématique quand on leur montre pas au niveau des postures, notamment la position de la feuille, la position du bras sur la feuille. Ça peut devenir effectivement très compliqué. Alors bon, c'est sûr qu'avec l'utilisation du stylo bic dans les années voilà, post-guerre, 70, 80, ça a solutionné un certain nombre de choses par rapport à ce qui pouvait se passer effectivement avec l'usage de la plume. Ceci étant, la plume reste le stylo plume qu'on connaît actuellement reste un très bon instrument.
Oui, c'est un bel outil, on peut faire de belles choses.
On peut, délier les lettres, hein, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est une question.
Alors délier ce qu'on appelle les pleins et les délier, effectivement. On n'en est plus là, hein. Ça c'était.
Je vous parle d'avant,
voilà.
Je sais bien.
Mais on peut avoir parfois des enfants qui sont intéressés par l'écriture. Il y a des stylos plumes maintenant, effectivement, avec des plumes plates qui permettent de faire des pleins et des déliés. Mais ce n'est pas l'objectif, nous, de la rééducation. Ce n'est pas d'avoir la belle écriture, jolie, etc. Ce n'est pas notre objectif.
Deuxième partie de ma question, ça sert à quoi ?
Donc nous, on prend en charge en fait les enfants, les adolescents, à partir du moment où il y a une problématique dans l'écriture. Donc souvent, cette problématique, elle est relevée ou par les parents, conjointement par les enseignants. Donc soit l'écriture, elle devient difficilement
lisible. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est une des causes de consultation, difficilement lisible. Donc les parents, en général, s'en aperçoivent et interrogent l'enseignant, qui peut effectivement alerter ou pas. Et puis, ça peut être aussi une écriture qui est trop lente. Donc, l'enfant se plaint, n'arrive pas à copier tous ses cours. L'autre facteur aussi de consultation, c'est les douleurs. Donc, un enfant qui n'aime pas écrire, un enfant qui a des douleurs aussi quand il écrit. Donc,
c'est-à-dire
voilà.
Qu'il y a une mauvaise manipulation du stylo ou une crispation?
Oui, une crispation, une tenue très verrouillée, effectivement, une mauvaise position du bras par rapport au poignet, une mauvaise position sur le, par rapport au bureau.
Ouais, ça, c'est toutes les remédiations que vous mettez.
Voilà.
On va revenir là-dessus. Mais, et vous, comment vous êtes tombé, vous, dans cette fonction, dans ce métier de graphothérapeute?
Par hasard, en fait, enfin par hasard d'un point de vue on va dire, personnel, c'est-à-dire que mon fils, hein, qui était à l'époque en CM1, était bon élève, voire très bon élève, et puis je trouvais que moi, les cahiers étaient un petit peu gâchés par son écriture, donc j'ai interrogé son enseignante qui m'a dirigée vers une personne qui était basée voilà, dans les environs de Rennes, et puis je me suis dit que j'allais faire la démarche. Et quand j'ai vu les résultats sur mon fils, je me suis dit que c'était un métier très intéressant. J'ai commencé à m'y intéresser, même si ce n'est pas mon métier principal, puisque j'ai une autre activité à côté. Et puis, j'ai décidé de me former. Voilà, donc
Il y a des écoles de graphothérapeutes.
Physiquement ou le truc que j'aime pas moi personnellement, vous savez, c'est par internet, vous avez des tutoriels.
Non. C'est pas une formation. Alors moi, je déconseillerais pour les personnes intéressées éventuellement par la graphothérapie, c'est complètement déconseillé de faire une formation par internet.
On est d'accord.
Complètement.
Ah, oui.
C'est pas sachant qu'on est basé quand même sur le geste d'écriture. Donc si le geste d'écriture vous faites par ordinateur, par visio, non, il y a des choses qu'on nous c'est évident. Donc il y a ce qu'on appelle des organismes de formation, voilà, qui peuvent être certifiés maintenant. D'ailleurs, le mien est certifié. Il y a plusieurs organismes de formation. Donc on postule, il y a des sessions tous les ans.
Ces formations délivrent un diplôme ?
diplôme, oui, qui n'est pas un diplôme d'État. Donc, voilà, ce n'est pas reconnu par l'État. On n'est pas effectivement DE à la différence des psychomotriciens, des ergothérapeutes qui eux sont diplômes d'État.
C'est des métiers reconnus en fait.
Oui. Donc on a ce qu'on appelle une certification. Voilà, qui nous permettent quand même d'exercer, on va dire, dans nos cabinets, mais ce n'est pas un diplôme d'État. Même si maintenant, mon organisme, il y a une certification Calliope quand même, il y a eu toute une démarche d'engager, et donc il y a une certification Calliope comme organisme de formation certifié et reconnu.
Très bien, écoutez, on va s'écouter un petit disque, et après j'aurai une ou deux petites questions, mais personnelles, parce que j'ai des problèmes moi aussi, j'ai des problèmes, et on ne dit pas graphothérapie, j'ai bien compris, vous allez... Bon bref, on s'écoute un petit disque, il faut que je lui parle.
Nous sommes de nouveau, je suis désolé, il faut rappeler les fondamentaux.
Allez-y, rappelez.
Je vous laisse la parole, mais il faut rappeler les fondamentaux. Imaginez qu'un gougnafier ou une gougnafière, parce que prenne l'émission en route, ne se mouche même pas le nez, s'essuie pas les pieds en ouvrant son poste de radio. Ouais. Nous sommes sur l'antenne de Canal B, nous écoutons Les Grignoux et nous sommes en compagnie de Véronique, graphothérapeute.
Voilà, bah, il y avait un côté un petit peu thérapeutique dans ce que j'allais vous demander, parce que j'ai pas de chance. Je fais partie de la 10-15% maximum de la population qui est gauchère. Et on vit dans un monde de droitiers. C'est abominable. Enfin bref, on est les meilleurs, on est screen, ping-pong, tout ce qui est rapide, on est bon. Bref, alors j'écris déjà un avec la main gauche et j'écris comme un cochon. Quand j'étais jeune, il y avait la conseillère d'orientation, quand elle a vu mon écriture, elle dit, vous voulez pas faire tout bib? J'y veux bien, pourquoi pas? Le problème, j'ai pas passé le bon bac. C'était plus un bac littéraire qu'un bac, le bac C qu'on lisait à l'époque scientifique. Est-ce que vous pouvez faire, et j'ai un autre problème aussi, je suis 10. Alors, on m'a longtemps dit, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était pas à la mode où je prenais des claques parce que je faisais des fautes, etc. C'était une autre éducation. Et je sais pas, vers 15-16 ans, j'étais voir une orthophoniste, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais quand j'avais 15-16 ans, ça n'existait pas, et qui m'a déclaré dyslexique. Et en fait, je me suis aperçu que je ne suis pas dyslexique, parce qu'un texte, je le comprends, j'analyse, j'ai aucun souci. Et je serais plutôt du style dysorthographique. C'est-à-dire que je fais des fautes, et heureusement que j'ai eu un métier dans le temps où je connaissais bien mes règles de grammaire, qui faisait que je les appliquais dans ma tête. Ouais, voilà, j'ai bien mis un T après le il, voilà, ce genre de choses. Bon, j'en rigole, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi ou je suis un cas désespéré?
Alors, les adultes ne sont pas vraiment le cœur de notre métier.
Alors, moi, j'ai lu pourtant, moi, dans les informations que j'ai chipées sur Internet, que c'était jamais trop tard.
Non. Effectivement, on peut toujours travailler, tenter quelque chose. Après, il faut savoir que quand il y a eu 30-40 années quand même de graphisme avec une certaine posture et puis des habitudes, des automatismes.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule une séance de graphothérapeute? C'est-à-dire que, bah, comme vous, imaginons que je sois papa d'un petit garçon, d'une petite fille qui présente des difficultés d'écriture et l'instit, comment débattre? Vous connaissez ce que c'est que l'éducation nationale aujourd'hui, la première question, on va commencer par la base, comment je fais pour m'y repérer dans ce qui... Ça paraît être un petit peu, j'appelle ça une jungle, parce que je vois par exemple, par pure coïncidence, j'ai trouvé un article, Yvette a un métier rare exercé par 50 personnes en France, Yvette Aboukrat, pour pas la nommer, elle est graphopédagogue à Nice, et elle prétend qu'ils sont très peu en France. En fait, vous êtes nombreuses et nombreux à travailler là-dessus.
Oui, c'est un autre nom. En fait, on est tous rééducateurs, rééducatrices de l'écriture. Et ensuite, il y a eu entre guillemets aussi des écoles. C'est-à-dire que nous, dans notre organisme de formation et dans notre groupement, on a décidé de s'appeler graphothérapeute. Ça nous semblait... on s'est posé la question, hein, mais on est graphothérapeute ou rééducateur de l'écriture.
Et pas graphopédagogue comme Yvette.
Graphopédagogue, mais on fait franchement la même chose. Donc graphopédagogue, on va retrouver la grapho, donc tout ce qui est le graphisme est lié à la pédagogie. Donc voilà, c'est après... On fait.
Alors comment ça se passe? Je vous envoie mon môme. Comment je vous envoie, ouais. Jean-Loup par exemple. Voilà, là, il est un peu vieux.
Imaginez que j'ai.
Comment ça se passe?
Jean-Loup et qu'il a une à 12 ans.
Jean-Loup 12 ans. Et qu'il a une casquette de Castor Junior sur la tête.
Donc bah il y a tout d'abord un premier contact téléphonique qui permet déjà de poser les premières questions sur quelles difficultés il y a avec l'écriture, par qui, qu'est-ce qui a été repéré, par qui la personne est envoyée. Donc il y a un entretien téléphonique déjà qui est de une vingtaine de minutes quand même.
D'évaluer un petit peu, ça vous permet d'évaluer ce que vous allez avoir à faire, ou est-ce que c'est possible.
D'évaluer déjà si je suis la personne la plus appropriée dès le contact téléphonique. Okay. Il ne s'agit pas de faire venir la personne et de la faire payer, si ensuite déjà d'emblée on sait qu'il y a d'autres difficultés associées à côté et que finalement on n'est peut-être pas nous la
preuve. Quelles sont les difficultés associées qui feraient que vous ne pouviez pas prendre mon petit Jean-Loup?
Oui.
Si par exemple il y avait de grosses difficultés motrices à côté.
Handicap sévère au niveau de la main par exemple.
Par exemple, ouais. Aussi, mais s'il y avait une motricité globale aussi perturbée, un enfant qui a marché très tardivement, qui a du mal à se repérer dans l'espace, avec des difficultés, effectivement, d'écriture, mais qui vont découler d'autres difficultés.
D'une maladie neurologique, en fait, pour simplifier.
Oui,
ok, d'accord.
Donc là, il faut se poser la question, s'ils n'ont jamais consulté ailleurs, est-ce que, par exemple, une psychomotricienne ne serait pas plus adaptée que moi?
Ok. Et si vous voyez que vous pouvez prendre Jean-Loup, alors comment ça va se passer?
Donc en fait, il y a un bilan qui est programmé. Donc le bilan, ça dure quand même 2 heures. Voilà. Donc je reçois l'enfant avec les parents ou un des deux parents. Il y a toujours une partie entretien avec l'enfant et le parent. J'observe les cahiers pour voir un petit peu comment est l'écriture. Éventuellement, il m'emmène des cahiers des années passées pour voir aussi l'évolution de l'écriture. Et puis ensuite, je reste avec l'enfant et je lui fais passer un certain nombre de tests en écriture pour évaluer la qualité de l'écriture et pour évaluer aussi toute la partie quantitative, c'est-à-dire la vitesse d'écriture. qu'on doit évaluer aussi.
Très vite, très lentement.
Oui.
Et c'est ce qu'on appelle, alors d'après ce que j'ai lu, c'est ce qu'on appelle un espèce de bilan, un document de synthèse. Attendez,
un
bilan graphomoteur, c'est ça.
Un bilan de l'écriture manuscrite, c'est pareil. Là, on va retrouver un petit peu comme tout à l'heure, on va retrouver plusieurs dénominations. Chez nous, c'est bilan de l'écriture manuscrite. Voilà.
Et donc, vous produisez un document de synthèse, d'après Wikipédia.
Oui.
Et ce document de synthèse, et là vous me dites, ben voilà, Jean-Louis, il va falloir que je... Alors, j'étais assez surpris, en fait, c'est pas énormément de séances finalement.
Alors,
entre 6 et 10 mois de thérapie.
Il y a des sites qui annoncent, enfin, il y a des sites ou des graphothérapeutes ou graphopédagogues qui annoncent entre 6 à 8 séances. Je trouve que c'est peu hasardeux.
J'ai vu, c'était en mois, moi, 6 à 10 mois.
Non, je suis un peu, j'ai vu 6, 7 séances.
C'est un peu hasardeux d'annoncer d'emblée qu'il y aura 6 à 8 séances quand on n'a pas vu l'enfant, quand on ne connaît pas les difficultés. C'est très hasardeux. Donc moi, mes rééducations les plus rapides, on va dire chez des adolescents très motivés, ont été peut-être de 4 séances, avec des résultats déjà au bout de 4 séances, parce que la problématique n'était pas lourde, mais on peut aller jusqu'à une vingtaine de séances. Donc 6 à 8, on ne peut pas dire que c'est une moyenne et que c'est respecté dans la plupart des cas.
J'ai une autre question à vous poser aussi, idiote, parce que je suis spécialisé des questions idiotes. Pourquoi il y a des gamins qui étaient les gamins avant, qui écrivent mal? Est-ce que c'est les problèmes moteurs, psychologiques? Parce que j'ai vu qu'il y avait un côté assez psy aussi dans la démarche. C'était pas forcément l'écriture avec des liés et des déliés. Enfin, il y avait un côté psy. Je sais pas si vous avez la réponse à ça.
Alors, il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir tout d'abord des difficultés dans le geste d'apprentissage de l'écriture. Donc un enfant qui est au CP, CE1 est dans l'apprentissage de l'écriture et qui ne va pas automatiser des bons gestes. Mmh. Et quand l'écriture, on va commencer à lui demander d'écrire un peu plus et un peu plus vite, ne va pas réussir à suivre parce qu'il n'a pas les bons gestes.
Ouais.
Donc il y a une première chose. Ensuite, il peut y avoir une question de posture, c'est-à-dire la technique de préhension du crayon dans la main et le déplacement du bras.
Et ça, c'est dingo.
C'est pas naturel. Enfin, moi, je pensais qu'on prendre un crayon dans la main,
c'est pas naturel, Jean-Loup, parce que moi, je vois mon petit gars, enfin, maintenant qu'il a 27 ans, vous voyez, c'est plus
un petit gars. C'est votre petit gars.
Ça restera toujours mon petit gars. Verriez comment il prend le crayon. Il prend son crayon de manière tout à fait bizarre. Il a une écriture affreuse. Ça lui a pas empêché de faire des études supérieures, etc. Et je voulais vous demander si l'utilisation du clavier.
J'allais en parler un moment.
N'allez pas finalement comment multiplier les problèmes, parce que je le vois pour ma chérie qui n'écrit pratiquement plus à la main, qui ne fait plus que taper ses documents à la machine. Elle a une écriture de docteur, quoi.
Ouais, mais les gamins, ils vont pas se faire chier. Enfin...
Non, mais je veux dire, est-ce que, à ce moment-là, on ramène la question de base, est-ce que la surexploitation du clavier...
Ne va pas tuer l'écrit.
Finir par flinguer l'écrit. Manuel, tel qu'on le connaît.
Oui. De toute façon, il est clair que dans le système actuel, il faut l'écriture manuscrite et jusqu'à la fac. Alors à la fac, effectivement, les étudiants vont utiliser le clavier pour
tous
prendre
les ordi,
leurs notes.
Vous vous rappelez, Jean-Louis, nous, quand on était sur les mêmes bancs de la fac, on a un peu usé les mêmes culottes courtes sur les bancs de la fac, Jean-Louis et moi, c'est là qu'on s'est connus.
Malheureusement.
Moi je devais être moniteur sportif à l'époque. Hein. Bon, je dis ça.
Et moi, je devais être médecin, mais j'ai pas eu le bon bac.
Et résultat des courses, qu'est-ce que je suis devenu. Et les étudiants, ils sont tous sur leur ordi. Maintenant, ils écrivent
les
cours à la main.
Les gamins aussi.
Est-ce que c'est pas une catastrophe, ça?
Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, justement, sur le passage au tout clavier. Ils ont fait des études avec deux groupes d'étudiants qui avaient exactement les mêmes cours avec un groupe uniquement de prise de notes sur clavier et un autre uniquement
papier.
Sur la main, manuscrite. Et on s'est rendu compte que, quand même, l'écriture manuscrite avait du bon. bon. Alors, et de j'ai très
lu
bon.
Ça, c'est marrant, vous parliez de ça, parce que j'ai lu ça il y a peu de temps. C'est, il y a peu de temps que c'est paru. Et par contre, j'ai retrouvé un peu des choses qui vont dans votre sens à vous. À savoir que, enfin, moi, par, je n'ai pas la mémoire visuelle. Quand j'étais en cours d'histoire, pour pouvoir mémoriser mon cours, je recopiais des passages. Vous voyez? C'est-à-dire que le bouquin, pouf, les passages qui m'intéressaient, je les recopiais. Et j'ai retrouvé ça dans, le, dans la graphothérapie, à savoir que vous défendez le fait que réécrire les choses permet de mieux les mémoriser, on est d'accord.
Et en sachant qu'un chapitre, attendez. C'est une idée, il suffit de lire les deux premières phrases, les comprendre et c'est bon.
Véronique. Non, non, mais c'est vrai qu'au niveau, d'ailleurs, sur cette étude-là aux États-Unis, clairement, la mémorisation des jeunes, des étudiants, était bien meilleure. Et la compréhension aussi était bien meilleure, avec une obligation de faire une synthèse aussi de ce que disait l'enseignant, de façon manuscrite. Et il y avait déjà un processus.
Ce que vient de dire Jean-Loup, c'est-à-dire voilà, que Jean-Loup, ce que vient de dire Jean-Loup, avec justesse, à savoir que, bah, voilà, vous écoutez le prof pendant 5 minutes, prof, et vous résumez en 3 phrases.
Voilà, c'est ça, c'est le prolongement. Effectivement de la pensée par l'écriture manuscrite, les, on sait qu'au niveau cognitif les éléments mis en, au niveau du cerveau ne sont pas du tout les mêmes connecteurs, il n'y a pas les mêmes connexions au niveau du cerveau quand vous tapez sur le clavier que, par rapport à une écriture manuscrite.
Alors est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur carrément parce que avec l'invention de notre ami Geek, je ne vous parle même pas de l'intelligence artificielle mais de notre ami Geek en face de nous, là il ne sait plus écrire, moi je lui ai demandé d'écrire une liste de courses, il pouvait plus. Et il y a quand même, on a mis des milliers d'années à domestiquer la main pour que la main puisse être capable d'écrire, transmettre
l'écriture tout simplement.
Et des millions d'années pour que voilà qu'on puisse transmettre des messages. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça disparaît.
C'est pas la même forme de message.
C'est une question que je pose.
Il peut y avoir effectivement. Il pourrait y avoir une certaine forme de pauvreté qui pourrait apparaître avec, avec le clavier. Ceci étant, on n'a pas un clavier non plus sans arrêt à disposition.
Avec le téléphone portable.
Aussi, c'est, bah là, c'est
je, on le déplore. Hein, là.
Ah ouais, mais avec le téléphone portable. Ça va même sur la mémoire. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gamins qui me disaient je me fais pas chier à apprendre mes leçons. Pourquoi? Parce que si tu me poses des questions sur Napoléon, je prends mon portable, je tape Napoléon sur Wikipédia, pouf pouf,
et, t'as les grands
et j'ai
lignes,
tout
quoi.
Sur Napoléon.
Bon, on va se mettre
un petit disque, parce que là, on a peur. Vous n'êtes pas responsable de ça, Véronique, mais au contraire, vous y remédiez.
Et c'est moi le pessimiste de la bande, censément. Alors, et j'ai rien dit. Allez, un petit disque, c'est parti. We'll be right back.
Ouais. Eh bien voilà pour notre dernière intervention, parce que on doit rappeler Jean-Loup à chaque fois. C'est le code, vous êtes sur une radio, vous devez rappeler à chaque fois. Ça fait 34 ans que je vous le dis. Nous sommes avec Véronique, graphothérapeute, et nous allons lui poser la question, quid de la différence entre les orthophonistes et les graphothérapeutes?
Ah, moi, vous voulez en dire un mot? Je ne sais pas.
Justement.
Alors peut-être associer aussi les psychomotriciens, puisque c'est effectivement...
Vous allez nous dire ce que c'est que les psychomotriciens, parce que moi je trouve que ça fait chic, mais je ne sais absolument pas ce que ça veut dire.
Alors c'est une personne qui est diplômée d'État, qui va prendre en charge les difficultés motrices globales, mais également fines. C'est pour ça qu'une psychomotricienne peut intervenir aussi sur le champ de l'écriture, mais également les difficultés de coordination, de représentation dans l'espace, de schéma corporel. Pour elle. Donc son champ d'intervention est bien plus large que le nôtre. Ceci étant, les psychomotriciens peuvent prendre en charge quand même l'écriture. Parfois, ils sont un petit peu débordés aussi et orientent même vers la graphothérapie. Bon, ça dépend des secteurs, ça dépend un petit peu des collègues. Voilà. Les orthophonistes, elles prennent en charge ce qu'on appelle les troubles du langage, donc troubles du langage écrit et oral.
Et oral, d'accord.
Voilà. Et c'est effectivement, les orthophonistes peuvent poser des diagnostics, hein, comme la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie aussi, qui est un trouble du
langage. Ah, les gens qui sont hyper mal. Ah non, c'est le langage.
Alors,
pardon.
Ça, c'est la dyspraxie. Voilà. Alors, la dyspraxie, c'est un diagnostic assez lourd, hein, qui peut être posé plutôt. D'abord, c'est un diagnostic médical, donc moi, je ne peux pas parler de dyspraxie.
C'est quoi? C'est les gens qui cassent tout, en fait
Oui, c'est non-automatisation des gestes de façon plus globale. Donc, un enfant qui est dyspraxique, forcément, il est aussi dysgraphique. C'est-à-dire, dysgraphie, c'est vraiment un trouble durable de l'écriture. Mais dès qu'on pose le mot « dys », on est sur un trouble qui est durable.
Et qu'est-ce que vous entendez par « durable » Ça veut dire qu'on s'en débarrassera jamais ?
À vie.
Oui, c'est-à-dire qu'après, on va compenser. Il va y avoir de la rééducation, on va compenser, on compense au maximum, et puis on peut très très bien, effectivement, s'en sortir. Mais c'est vrai qu'imposer un diagnostic 10 quelque chose, c'est quand même normal. On est quand même dans le cadre du trouble qui est durable. Après, avec du travail et de la rééducation,
on peut s'adapter,
on compense complètement. Juste,
moi, on voit quand même l'utilité de la graphothérapie, mais est-ce que c'est pris véritablement en compte par les pouvoirs public, est-ce que c'est remboursé tout bêtement?
Alors, remboursé, malheureusement, non. Tout comme ne le sont pas, de toute façon, les psychomotriciens ou les ergothérapeutes ou les psychologues, même s'il y a eu des aides de l'État un petit peu là pour les psychologues. Mais contrairement aux orthophonistes qui, elles, effectivement, sont remboursées. Donc, c'est vrai que c'est un coût pas négligeable pour les parents. Il y a quelques mutuelles qui peuvent prendre en charge des forfaits. Quand même, pas spécifiquement en graphothérapie, mais dans le domaine de la santé, de façon, on va dire, tout ce qui est un peu paramédical. Et c'est vrai que c'est quand même un coût pour les parents.
Bah justement, combien ça coûte?
Alors, un bilan, c'est facturé, on va dire, entre 120 et 150 euros. En
ça, c'est un bilan
personne.
Global,
un
en
bilan
fait.
Global. Qui comprend quand même les deux heures de travail avec l'enfant et qui donne lieu à la rédaction d'un bilan complet d'une dizaine de pages. C'est quand même un gros document.
C'est 3-4 heures de boulot, quoi, cumulé.
Voilà, c'est 2 heures plus 2-3 heures de rédaction quand même derrière. Voilà, des documents quand même importants. Et ensuite, les séances, les prix sont aux environs de 45 euros.
La séance qui dure une heure,
qui
une
dure la séance dure 45 minutes avec l'enfant. Ouais. Moi, je prends toujours le parent à la fin de la séance pour expliquer un petit peu ce qu'on a travaillé et proposer ensuite des petits exercices entre deux séances.
Il faut s'entraîner, en fait, entre les...
Quand même sur une rééducation. Alors moi, je n'impose pas, contrairement à il y a des graphopédagogues qui imposent effectivement ce travail entre différentes séances. Moi, je propose, je n'impose pas. Il est vrai que si les enfants font les exercices proposés quand même entre deux séances,
vous donnez des devoirs à la maison.
Vite. Alors attention, ça ne doit pas. C'est 4 à 5 minutes que je propose
c'est pas les
par soir.
Ça doit pas être une contrainte.
Et surtout, voilà, surtout, on ne doit absolument pas arriver à un conflit. Quand l'écriture, on a tout à l'heure juste abordé la composante psychologique, mais il y en a une qui est importante quand même dans l'écriture. Et quand c'est déjà conflictuel ou quand c'est problématique pour l'enfant, il ne faut pas surajouter à une difficulté. Donc si c'est pour avoir des conflits avec les parents pour faire les exercices de grapho, finalement, c'est contre-productif.
Ah oui,
j'avais une contre-question aussi. Est-ce que les gamins sont volontaires ou est-ce que c'est peut-être parfois, je parle de globalité des parents, parfois compliqué où les gamins, je m'en fous, de toute façon, plus personne n'écrit. Vous voyez le genre de discours qu'on a actuellement?
Alors, on a plus ce discours-là avec les adolescents, à partir de la 5e, 4e, 3e, qui sont effectivement plus réfractaires à venir. J'en ai eu quelques-uns qui sont venus vraiment contraints et forcés. Et de toute façon, là, clairement, la rééducation est presque vouée à l'échec. Alors, on essaye au départ en se disant peut-être qu'on va débloquer quelque chose et que l'enfant va finir par adhérer au bout de deux séances.
Il faut qu'il y ait une volonté.
Oui, il faut qu'il y ait quand même une volonté, surtout chez les adolescents. Il faut avouer que chez les enfants plus jeunes, c'est plus facile parce que les séances de rééducation restent assez ludiques. On passe d'une activité à une autre, c'est quand même très varié. Il y a aussi un moment de relaxation en tout début de séance, on fait un petit moment de relaxation.
Vous travaillez qu'à chaque fois avec un seul enfant.
Un seul enfant qui est pris en charge, effectivement. Le parent le dépose au cabinet, il reste 45 minutes avec moi et le parent revient le chercher après avec un petit débriefing de la séance à
D'accord.
la fin.
D'accord. Et une autre question que je voulais me poser, mais comment on est parent, on est perdu, le gamin est écrit comme Jean-Loup.
Oh, ça va, ouais. C'était une autre époque.
Non, mais on avait dit que Jean-Loup, c'était vous l'exemple. comment choisir un bon grapho ou une bonne graphothérapeute dans ce qui apparaît un petit peu une jungle entre ceux qui disent qu'ils sont graphothérapeutes, pédagogues, etc., etc. Comment on s'y retrouve?
Est-ce qu'il y a une fédération, quelque chose de sérieuse, entre guillemets?
Alors nous, moi je fais partie du je peux le citer ou pas, Graphidis, et Graphidis, on est devenu une fédération, on fait partie maintenant de la fédération Graphem, et donc effectivement on a l'annuaire du coup de toutes les graphothérapeutes de cette fédération, et qui permet quand même d'avoir une certaine... sécurité par rapport à la graphothérapeute choisie, puisqu'elle a été forcément formée, elle a été certifiée et elle se doit de respecter un certain nombre de choses. Il y a un code de déontologie qu'on doit respecter. Donc voilà.
Donc ça limite les dérives.
Oui. Ensuite, on est quand même souvent recommandé. Après, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est-à-dire c'est
avec
parfois les enseignants
notamment.
Qui nous recommandent, ou les orthophonistes aussi qui ont vu les progrès sur quelques enfants qu'elles suivaient parallèlement, parce qu'il n'est pas rare qu'un enfant soit suivi en orthophonie, puisqu'on n'a pas fini tout à l'heure, mais effectivement, on peut être tout à fait dyslexique ou dysorthographique et avoir des problèmes en écriture, puisque par exemple, la relation, enfin, ce qui est facile de comprendre, qu'un enfant qui est dyslexique, pour copier, il a déjà des difficultés, donc forcément... Quand il va écrire, il va arrêter son geste X fois parce qu'il a besoin de regarder le tableau, revenir sur son cahier, regarder le tableau de nouveau. Il a des problèmes pour mémoriser, il peut inverser les lettres, il peut omettre des lettres. Donc forcément, on va arriver sur une écriture qui est plus saccadée, qui est plus chaotique, qui manque de fluidité, parce que sa dyslexie va forcément lui poser problème aussi sur l'écriture.
Alors, est-ce que vous avez des petits exercices ludiques? Parce que le gamin, il peut être aussi le fait d'être en échec, ça peut être chiant.
Les hyperspeed, c'est ça.
Alors moi, j'ai lu sur Internet, vous apprenez des choses de base auxquelles on ne pense pas forcément, mais vous réapprenez la prise en main du crayon, vous pouvez utiliser la pâte à modeler. Vous l'utilisez, vous, la pâte à modeler?
Oui, avec les...
Alors expliquez-moi, j'aime bien.
Alors en fait, on fait travailler au niveau de la motricité globale de tous les doigts. On fait former des petites boules, par exemple. On peut les faire aussi ce qu'on appelle la translation vers la paume de la main et revenir vers les extrémités des doigts. Donc on peut faire ce type d'exercice. Et on peut travailler aussi la pression, parce que la pression, ça fait partie des problématiques des enfants qui écrivent avec une...
C'est-à-dire qu'on appuie trop ou pas assez ?
Voilà, tout à fait, ouais. Alors c'est souvent trop. Quand c'est pas assez, c'est plutôt trop que pas assez. Et donc, c'est des enfants qui vont se fatiguer quand même à écrire, qui vont mettre beaucoup plus d'énergie physique à écrire, alors que normalement, l'écriture doit être quelque chose d'assez souple.
Ça va être magique quand même quand au bout d'un moment, je sais pas moi, une dizaine de séances, on voit que les gamins qui étaient totalement rétifs et qui étaient totalement maladroits dans la création des lettres, et parce que c'est du dessin finalement, vous leur apprenez, à, ça doit être, magique de voir que les gamins s'en sortent.
Oui, bah c'est sûr que quand on reprend ensuite les cahiers, vraiment notre point de repère c'est les cahiers, donc on reprend les cahiers avant la rééducation et après la rééducation, des fois les enfants se rendent même pas trop compte, on plie les pages pour leur montrer un petit peu le avant-après, et là ils se rendent compte vraiment des progrès, et c'est vrai qu'ils sont parfois eux-mêmes surpris. On refait évidemment au bout de 6-8 séances, on refait un certain nombre de tests qu'on a fait au départ, pour voir s'ils ont gagné en qualité, s'ils ont gagné en vitesse. On leur donne pas, on leur montre pas juste avant de refaire ces tests, et puis ensuite on leur montre, et là ils s'aperçoivent effectivement des changements qu'il peut y avoir. Donc oui, c'est très gratifiant évidemment pour l'enfant de voir les progrès qu'il a fait. Après c'est du boulot aussi, c'est des efforts quand même qu'on leur demande. C'est pas si simple que ça.
Et des efforts pour vous aussi, j'imagine, puisque vous s'adaptez à chaque cas de gamin.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier, hein, c'est que chaque enfant est différent, les problématiques sont différentes, c'est l'écriture en général, mais il y a toujours des petites problématiques à côté associées qui sont jamais les mêmes, donc c'est ça qui rend le métier passionnant aussi.
Eh ben écoutez, on vous remercie Véronique, voilà, vous avez bien vu que Jean-Loup faisait la danse du crabe.
Voilà, mais bon, vous pouvez retrouver sur le blog des Grignoux tous les renseignements et éventuellement un site, quelque chose pour retrouver Véronique ou au moins l'association dont vous avez parlé. Alors ça j'aime bien parce que vous avez vu comment je débute de la mort et j'adore finir de la mort en vous disant salut, à la semaine prochaine.
Merci.
Allez, salut.